Oui, grand week-end de course en fin de semaine, évidemment, avec la présentation des 500 000 d'Indianapolis. On en parle avec notre ami Patrick Carpentier. Aussi de la grosse nouvelle en fin de semaine, Williams qui change de nom. Salut, Pat!
Salut, ça va bien?
Oui, ça va bien. Pat, évidemment, c'était la grosse journée des 500 000 d'Indianapolis. Donc, ça a été une victoire par Takuma Sato encore une fois.
Oui, exactement. Écoute, belle victoire. Moi, je suis un peu déçu quand ça se termine sur sous neutralisation.
Ben oui.
Par contre, j'aurais aimé ça voir une bonne bagarre à faire avec Dixon qui a mené la majeure partie de l'épreuve. Là. Mais Sato était hyper rapide à la fin. Puis écoute, c'est un gars ben, vraiment sympathique. T'sais, c'est un gars qui est âgé. Il a quoi, 43 ans, 42?
Oui, c'était lui qui était... il était avec Jacques Villeneuve à un moment donné, lui.
Oui, c'est ça. Il était à F1 en plus déjà. Fait qu'il a fait 90 courses en F1. Puis c'est un gars qui est sympathique, qui donne beaucoup, qui a fait il fait des choses pour les enfants dans son pays. Fait que je suis content. T'sais. Je trouve que c'est arrivé à un bon gars. Ça aurait été le fun de voir Dixon aller en chercher un autre, mais ça fait du bien de voir quelqu'un d'ailleurs comme ça. Là, des fois,
Dixon,
aller chercher
long,
pour la deuxième fois.
T'sais. Qui a été longtemps dans la course aussi, là, Dixon. Là, qui a été...
Oui, Dixon a mené au-dessus d'une centaine de tours. Fait que Dixon a vraiment dominé l'épreuve. Malheureusement, c'est pas lui qui a été la chercher à la fin. Sato a été bon. Il l'a dépassé par l'extérieur, puis il a utilisé une bonne stratégie pour défendre par la suite. J'étais content pour Real Lederman. Real faisait, je pense, un bon bout de temps qu'il n'avait pas été chier de victoire. Là, fait que ça, c'est bien.
OK. Fernando Alonso, qui lui rêvait d'être... d'être vraiment, là, de gagner la triple couronne. La triple couronne, c'est Monaco, les 24 heures du Mans et les 500 000, c'est ça, hein?
Oui, exactement.
OK, donc, écoute, ça va être pour une autre fois, parce que lui, il en a arraché pas à peu près. Je l'ai regardé en fin de semaine, là. C'était vraiment pas facile. Maintenant, il s'est ramassé au puits, au 102e tour, puis je pense qu'on l'a même pas vu par après.
Oui, exactement. Je pense que alors, ce qu'il y a présentement, puis l'entente qu'il a signé en F1, de la façon qu'il parlait, je pense pas qu'il va revenir dans les prochaines années.
Là, il y a deux ans.
Exactement. Fait que, puis honnêtement, tu sais, comme on parlait tout à l'heure, il y a ceux-là qui vont frapper le mur, puis ceux-là qui l'ont frappé en IndyCar. Puis quand il a frappé le mur pendant les pratiques, je pense que des fois, ça fait réfléchir peut-être un petit peu plus. Surtout quand tu vieillis un peu plus, tu te demandes des fois pourquoi tu prends le risque. Fait que, je suis pas certain que ce rêve-là pour lui va se réaliser.
Non, effectivement. Qu'est-ce que pour un gars de F1, c'est-tu bien? Parce qu'en Europe, c'est pas commun. Là. C'est pas comme en Amérique du Nord. Il y a des ovales, il n'y en a pas. Donc, Alonso qui a couru pratiquement tout le temps sur un F1 puis un F3 puis ainsi de suite. C'est-tu bien dur? L'adaptation est-tu dure?
Ben la dotation est pas si dure que ça. Tu l'as vu quand il est arrivé. Tu sais, c'est un champion du monde, hein. Fait que c'est un gars qui est habitué de tourner dans les formules circuit ovale comme Indianapolis, c'est similaire. T'as vu des gars de NASCAR comme Tony Stewart ou les Bush, un des Bush, Kurt Busch qui l'a fait, pas de difficulté à s'adapter. Mais par contre, c'est quand tu frappes le mur, quand tu l'échappes et tu sais pas trop pourquoi, puis tu t'aperçois qu'elle peut partir sans t'avertir réellement. Des fois, ça change un petit peu ta façon de voir les choses, puis ta façon, comment t'es confortable dans la voiture, parce que jusqu'à temps que ça arrive, tout le monde est frondeux, puis tout le monde, ils n'ont pas de problème, tu sais, mais quand ça arrive, après, des fois, tu vois plus ça de la même façon, puis ça prend une meilleure voiture pour que tu sois rapide, tu comprends? Faut que tu sois un petit peu plus confortable qu'avant pour être rapide, à part les jeunes qui rentrent, puis tout ça.
Mais
là,
un gars comme Alonso, 500 000 d'Indianapolis, c'est vraiment une course d'endurance. Tu me corriges, je me trompe. Donc, un gars comme Alonso, que lui, il n'est pas habitué, c'est là le plus dur pour les réglages, et ainsi de suite.
Ah, ben c'est sûr, l'expérience, il fait beaucoup. Tu sais, il peut se fier à ses coéquipiers jusqu'à la qualification, mais pendant la course, t'es laissé un peu plus à toi-même, quoique en Indy, l'auto, il n'y a plus grand-chose faire dessus pendant l'épreuve, à part ajuster les ailerons, la pression des pneus, une couple de petites affaires, tu sais, mais t'as pas le temps, t'es zéro plus de faire bien plus que ça, sauf que c'est l'expérience, mais une bonne voiture, rouler dans la turbulence, c'est une autre technique aussi, un peu, mais tu sais, Mansell, quand il est parti de la F1 et il venait à IndyCar, il a été champion la première année. Fait que ça, c'est toujours possible.
OK. Grosse nouvelle dans la F1, Williams qui a été racheté par un fonds américain. Écoute, Williams, c'est Frank Williams. C'est une écurie qui, écoute, qui a remporté 9. Écoute, c'est en 1977 que c'est arrivé à Williams. Et plusieurs championnats de pilotes, entre autres Jacques Villeneuve, plusieurs championnats de constructeurs également. C'est vraiment une page d'histoire qui se tourne. Hein?
Oui, exactement. Je pense que c'est, j'ai pas d'infos en face de moi, je pense que c'est 7 championnats du monde, ouais, 7 ou 9, un des deux.
C'est 9 championnats du monde.
Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est une legacy, je sais pas comment dire ça. Tu sais, c'est le changement, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Tu sais, Frank Williams a toujours mené cette écurie-là. Ça avait parti dans un petit garage d'un début. Puis, il a mené vraiment comme Ron Dennis à l'époque. Tu sais, mais les périodes changent, les temps changent. La F1 est dirigée par aussi le budget que tu as. Malheureusement, Williams. Ben,
c'était sa fille, Claire Williams, qui a pris la relève. On dit que ça n'a pas aidé vraiment, hein?
Non, ça n'a pas aidé, mais tu sais, c'est la même question que pilote et puis voiture de course. C'est-tu la faute du pilote? C'est-tu la faute de l'auto? C'est-tu la faute à Claire Williams? Ou c'est la faute du fait qu'on n'avait pas d'argent? Tu sais, ouais. Tu sais, si t'as pas d'argent, t'as beau avoir les plus grands sur la planète, si t'as pas moyen de développer la voiture, tu sais, quand tu roules à 100 millions de budget comparativement à des 400 millions de budget, c'est difficile d'arriver. Tu sais, puis je pense qu'il était rendu à un point. Parce qu'ils ont tout vendu aux intérêts américains. Là, c'est une firme d'investissement privé qui a acheté la voiture, qui a investi à long terme, mais sauf qu'ils vont rester là-bas, ils vont garder le nom Williams, ils vont garder tous les emplois. La même chose pour un bout, en tout cas. Mais sauf que l'F1 change, tu sais, puis je pense que pour une compagnie d'investissement, puis Frank Williams brûlait beaucoup d'argent, avait des dettes, avait pas loin de 50 millions de dettes qui ont été payées avec la vente de l'écurie, mais par contre, à un moment donné, tu veux-tu tout brûler ta fortune pour t'entêter à garder l'écurie? Fait que je pense que c'est vraiment une bonne décision. Puis comme tu mentionnais, lui était plus là, c'est sa fille qui gérait ça. J'avais l'impression qu'elle avait pas autant de facilité que lui pour gérer cette équipe-là, puis c'était la bonne chose à faire.
Raphaël Lessard, 19e en fin de semaine, j'écoutais à Dover la course, c'était une piste qu'il ne connaît pas. Écoute, fallait pas s'attendre à grand-chose. Bah, 19e, c'est un petit peu décevant, un petit peu de résultat de sa course pareil. Heureusement, je l'ai eu en entrevue par la semaine passée, puis je sais que tu l'as dit des semaines à RDS, mais j'ai carrément posé la question, est-ce que Kyle Busch t'a mis de la pression, puis il m'a dit que non. Il m'a dit que de la manière qu'il a pu comprendre, il dit que la première moitié de saison, c'était pour l'adaptation, puis par la suite, il ne performe pas.
Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est Kyle Busch comprend qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de qualif, il n'y a pas rien. Là. Il arrive vraiment avec à chaque course. Cette track-là, par contre, il l'avait fait l'an passé. Il avait bien roulé dans pratiques top 10, facile. S'il y avait des pratiques, écoute, je le sais que ce serait vraiment toute une autre histoire. Mais en fin de semaine, malheureusement, c'est une erreur à l'entrée de la ligne des puits. Vitesse excessive, donc il a été pénalisé, perdu 2 tours. Ça l'a pas aidé de ce côté-là. C'est de la malchance. Même les tops comme Kyle Busch sont pénalisés de même des fois. Fait que, écoute, il y a pas beaucoup de chance jusqu'à la date de jeune, je vais te le dire. Le talent exceptionnel. On le voit à Daytona la semaine passée pour un petit gars qui n'a à peu près jamais fait de routier de sa vie, là. Il roulait avec le meilleur en avant. Mais, écoute, c'est un contexte extrêmement difficile d'aller, un, aux États-Unis, s'adapter aux camionnettes, s'adapter au circuit. Mais zéro pratique, fait que c'est quelque chose qui est très difficile.
OK. Pat, on se reparle très très bientôt. Il y a moins de football, fait qu'on va se parler plus de course automobile, si je le permets.
Aucun problème, parce que si le football avait un moteur, je pourrais t'en parler beaucoup, mais malheureusement, c'est pas le cas.
Pat, salut, mon ami. Gros merci, on s'en reparle bientôt.
Parfait, bye bye.
Notre ami Patrick Carpentier.